Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Claude Ferré, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vie de Léon Tolstoï et aujourd'hui on s'en va au froid dans le Caucase.
Bonjour, voilà, nous allons nous faire une petite promenade dans le Caucase. Voilà, donc nous sommes dans la troisième émission. La dernière fois, je vous disais que Tolstoï avait réfléchi toute une nuit après son université à Kazan pour savoir ce qu'il allait faire après ses 19 ans. Donc Tolstoï a passé une nuit à réfléchir et il s'est dit « Non, ma vie n'est pas à faire des études, ma vie n'est pas à être un ingénieur ou un diplomate, ma vie va être à partir dans mon domaine que je viens d'hériter pour aider mes serfs et les instruire. » Voilà, Tolstoï, donc juste avant, vers ses 18 ans, vient d'hériter ce grand domaine, Yasnaya Polyana, qui veut dire clairière lumineuse, déjà je l'ai dit plusieurs fois, un domaine de 1500 hectares, le domaine là où il est né, comme on vient de le dire. Ils étaient quand même 5 enfants, et lui, bah, il hérite 3 villages et 700 serres à son service. Donc Tolstoï aime la nature évidemment énormément et il se dit ma vie est d'aller aider ses serfs et les délivrer du servage et de les instruire. Alors voilà, donc je vais vous lire une lettre pour bien signifier l'orientation que Léon Tolstoï va prendre à ses 19 ans. Donc il refuse toutes les études, il refuse la grande situation que sa tante lui avait espéré pour lui. Et donc voilà la lettre qu'il écrit à sa tante. C'est extrait de La matinée d'un seigneur, d'un petit nouvel roman qu'il a écrit plus tard, mais qui correspond exactement à ce qu'il a dit. « Chère tante, je viens de prendre une décision d'où dépend tout le sort de ma vie. Je quitte l'université pour me consacrer à la vie de la campagne, car je me sens née pour elle, pour Dieu. Chère tante, ne vous moquez pas de moi. Vous direz que je suis jeune, peut-être est-ce vrai. Je ne suis encore qu'un enfant, mais cela ne m'empêche pas de sentir ma vocation, d'aimer le bien et de désirer le faire. » Comme je vous l'ai déjà écrit, j'ai trouvé les affaires en une confusion indescriptible. Désirant les remettre en ordre, et après les avoir bien étudiées, j'ai découvert que le mal principal tient à la situation plus que miséreuse des paysans. Et c'est un mal tel qu'on ne peut y remédier que par le travail et la persévérance. Si seulement vous pouviez voir deux de mes paysans, David et Ivan, et la vie qu'ils mènent, eux et leur famille, je suis persuadé que la vue seule de ces deux malheureux vous convaincrait plus que tout ce que je puis vous dire pour vous expliquer ma décision. N'est-ce pas mon devoir strict, sacré, de me vouer au bonheur de ces 700 âmes dont j'aurai à rendre compte à Dieu? N'est-ce pas un péché de les laisser à la proie de gérants et d'intendants grossiers pour mes plaisirs ou mes satisfactions? Et pourquoi chercherai-je dans un autre milieu des occasions d'être utile et de faire le bien, quand se présente à moi un devoir si noble, si grand et si proche? Je me sens capable d'être un bon maître, et pour l'être, comme je comprends ce mot, il ne faut ni diplôme de l'université, ni les titres que vous ambitionnez pour moi, chère tante. Ne formez pas pour moi de projets ambitieux. Habituez-vous à la pensée que j'ai pris une route tout à fait spéciale, qui est bonne et qui, je le sens, me mènera au bonheur. J'ai réfléchi beaucoup et beaucoup à mes devoirs futurs. J'ai écrit ma règle de conduite et si Dieu m'en donne la force, je réussirai dans mon entreprise. Ne montrez pas cette lettre à mon frère Vassia, je crains ses moqueries. Il est habitué à me commander et moi à me soumettre à lui. Quant à Vania, si même il n'approuve pas ma décision, il la comprendra. Voilà, donc avec cette lettre, on voit déjà, on a la tonalité dans laquelle Tolstoï a envie d'œuvrer et d'engager sa vie. Donc à 19 ans, il fait atteler ses chevaux de Kazan et il vient dans sa propriété qu'il vient d'hériter. Il a 19 ans, il n'a jamais tout seul habité dans ce grand domaine qu'il vient d'hériter d'une vingtaine de chambres. Donc il s'organise et là, il visite ses serfs, il a 19 ans. Il rentre chez eux, les serfs se demandent qu'est-ce que ce seigneur veut. Il veut peut-être nous envoyer en Sibérie ou ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il a un cahier, il prend des notes, mais Tolstoï a le souci de faire l'inventaire de ce dont ils ont besoin. Alors on rigole de lui, quoi. Ce jeune barine, ce jeune seigneur, qu'est-ce qu'il vient faire? Et donc malgré cela, Tolstoï, pour la première fois de sa vie, à 20 ans, ouvre sa première école. Voilà, et donc des jeunes enfants, les jeunes moujiks viennent à son école. Les parents ne veulent pas se séparer, évidemment, de leur bras pour travailler. Et ils ne comprennent pas pourquoi ce jeune barine de 20 ans veut leur faire l'école. Mais Tolstoï avait déjà, comme on vient de lire la lettre, il avait l'idée que pour que les serfs soient... évolue, il leur fallait de l'instruction. Et il comprenait qu'il voyait bien qu'il avait des privilèges énormes et que ça ne pouvait pas durer comme ça, quoi. Donc voilà, mais quand même, au bout d'un an, il est déçu. Très vite, il est déçu de cette première expérience dans sa campagne, retiré, avec ses serfs qui rigolent de lui, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Donc il se dit, non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ma vie, ça. Il est déçu, et puis, très vite, il repart, il quitte tout. C'est Tolstoï, ça, il quitte tout, et au bout d'un an, il s'en va à Moscou. Là, il a 20 ans, 21. C'est vraiment les 2 ans qui vont suivre, il va vraiment mener une vie de débauche. Et quand Tolstoï fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Débauche, ça veut dire quoi? Passer des nuits entières à jouer aux cartes, avec des amours faciles, avec les tziganes qu'il aime beaucoup, je crois que je l'ai déjà dit. Il boit, il fume, il perd aux cartes. Enfin, il est criblé de dettes, quoi. Il est criblé de dettes. Et la vie, cette vie de débauche qui dure, on passe assez vite, excusez-nous, chers auditeurs, mais on ne peut pas passer tout son temps sur cela. Ça serait l'objet d'une émission entière. Il faut qu'on aille au Caucase. Et donc, il s'ennuie de cette vie au bout de 2 ans de débauche. Et puis, il se dit, lui qui voulait être libre, il se dit fatigué de sa liberté. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait Tolstoï quand il est fatigué de sa liberté, qu'il ne sait plus quoi faire du tout de lui? Heureusement, il a, comme on l'a dit dans la précédente émission, il a son frère Nicolas. Et Nicolas a pitié un peu de ce pauvre Léon Tolstoï qui semble perdu là à Moscou. Il est en dérive un peu. Mais bon, en dérive qu'à moitié, parce que quand même, il ne perd pas les pédales. Et donc, Nicolas est militaire, officier militaire au Caucase. Et il lui dit, on va partir ensemble, viens avec moi. Tolstoï a 23 ans et il va suivre son frère pour partir dans l'armée du Caucase. Le Caucase, vous savez qu'à l'époque, on est en 1851, donc en pleine guerre de conquête de l'Empire russe. Le Caucase, c'est le salut, la perspective d'une vie nouvelle au sein d'une nature grandiose, parmi une population sauvage. Puis cette vie, pour les aristocrates russes, est remplie d'aventures et de dangers. C'est tout ce qu'avaient chanté les grands poètes comme Pouchkine, Lermontov. Et là-bas, évidemment, l'armée menait quand même une lutte incessante contre ces farouches et insoumis montagnards. Les pauvres, ils ont le droit de vivre chez eux, mais la Russie, comme beaucoup d'autres pays, voulait s'agrandir et conquérir ce Caucase. Donc la Tchétchénie, dont on va parler, ça date de 2 siècles. Donc Tolstoï a besoin d'aventures et d'expériences fortes. Alors il suit son frère et donc il part comme touriste au départ dans le Caucase. Parce que là, ça le fait rêver, à 23 ans, il est plein d'énergie, ça va me changer un peu les idées, quoi. Et donc, ils ne prennent pas la route directe, parce que c'est trop facile, ça. On va partir par Kazan, là où il a fait ses études, il a des amis. Et après, on va passer, on va prendre cette grande Volga. L'autre jour, je disais que, bien sûr, la Volga prend sa source entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc, elle est navigable très vite. Hein. La Volga est navigable très vite. Et à Kazan, évidemment, elle passe là. Et ils vont prendre ces grands bateaux. On monte le Tarentas dessus. Et les chevaux. Et la Volga fait rêver, a toujours fait rêver, évidemment, tous les aventuriers qui vont au Caucase. Et là, ils vont prendre même parfois des barques sur lesquelles ils ont mis, comme je l'ai dit, le Tarentas. Et avec l'aide d'un pilote, de rameurs, ils naviguent tantôt à rame, tantôt en se laissant porter par le courant. Ils ont quand même mis 3 semaines pour arriver à Astrakhan. Astrakhan, c'est, si vous regardez sur la carte, c'est une merveilleuse ville sur les bords de la Caspienne. Alors, je voudrais quand même ne pas oublier les merveilleux chants des bateliers de la Volga, parce que Tolstoï a évidemment, ils ont pris ces bateaux. Si vous voyez des images ou des, on voit ces bateliers qui tirent les bateaux avec des harnais sur le bord de la Volga. Et là, nous allons illustrer ce passage par un merveilleux chant de Chaliapine, qui est un chanteur russe mort en 1830. Et l'enregistrement, écoutez bien, il est de 1828. Voilà, donc après ce merveilleux chant, à travers lequel on sent toute la souffrance de ces hommes avec leurs harnais qui tirent les bateaux, mais je trouve qu'on ressent toute l'immensité de la Russie, la force aussi vers laquelle va Tolstoï. Il est très exalté de découvrir ce Caucase qu'il a tant entendu parler, qu'il ne connaît pas. Tolstoï est déjà sensible à la poésie, à la littérature, il a fait quelques essais. Alors d'Astrakhan, ils sont arrivés au bord de la Caspienne et il écrit à sa tante. Et il dit à sa tante « Pourquoi suis-je heureux ? Et pourquoi vivais-je auparavant ? » pensa-t-il. « Comment ai-je été exigeant pour moi ? Et n'ai-je rien fait pour moi, sauf honte et douleur ? Et voilà, pour être heureux, il ne me faut rien ?» Et tout à coup, brille devant lui une lumière nouvelle. « Le bonheur, le voilà, se dit-il, c'est de vivre pour les autres, c'est clair. En l'homme se trouve le besoin du bonheur, donc il est légitime. » Voilà, donc il continue son voyage et ils vont partir en Tarentase vers la Tchétchénie. La Tchétchénie, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est déjà, il y a les fameux camps cosaques dont on va parler. Et c'est là que son frère vit dans une petite garnison cosaque qui s'appelle Starogladkovskaya, en pleine Tchétchénie, sur le bord du Terek. Et avant, comme vous savez, ce sont des immenses plaines avant le Terek, avant le Caucase, des immenses plaines, et on voit les monts. J'y suis allé là, bien sûr, j'ai dû aller visiter là où Tolstoï était passé. Il a fallu que j'aille au Caucase. Donc c'est magnifique, parce que très loin, mais une journée avant, avec les chevaux, 2 jours avant, on voit déjà les montagnes. Et Tolstoï est déçu par la brume, car les montagnes, tant célébrées par leur beauté, par les grands poètes comme Pouchkine et Lermontov, on ne les voit pas. Et donc là, il est quand même déçu de ne pas les voir. Et je trouve que avant d'arriver à Starogladkovskaya, dans ce village cosaque, il y a toute son éveil poétique et littéraire, comme je viens de le dire, qui est en action. Et plus tard, enfin quelques années plus tard, il va écrire ce fameux roman Les Cosaques, qui est une véritable merveille. Et je vais vous lire un petit morceau, un passage des Cosaques, pour illustrer la façon dont Tolstoï va entrer en contact, mais en contact très fort, très intime, avec la nature et la vie de ce Caucase, de cette Tchétchénie, de ce camp cosaque. Le ciel matinal était tout à fait clair. Tout à coup, alors là, excusez-moi, mais c'est son héros, Olénine, qui parle dans les Cosaques. Mais Olénine, comme on le verra, comme tous ses œuvres sont autobiographiques, c'est Tolstoï. Donc, le ciel matinal était tout à fait clair. Tout à coup, il vit, à 20 pas de lui, comme il lui sembla au premier abord, d'énormes masses d'un blanc pur, au contour léger, au profil capricieux, nettement dessiné, et la ligne aérienne de leur sommet sur le ciel lointain. Et quand il se rendit compte de l'immense distance entre lui, les montagnes et le ciel, de la grandeur des montagnes, et quand il sentit tout l'infini de cette beauté, il fut effrayé, croyant à une vision, à un rêve. Il se secoua pour s'éveiller, les montagnes étaient toujours les mêmes. « Qu'est-ce ? Qu'est-ce donc ? » demanda-t-il au postillon. « Les montagnes ? » répondit avec indifférence le Nogueï. « Et moi aussi, je les regarde depuis longtemps, » fit Fanouchka. « Comme c'est beau ! Chez nous, on ne le croira pas. » Au mouvement rapide de la Troïka sur la route, on eût dit que les montagnes couraient à l'horizon avec leurs sommets roses brillant sous le soleil levant. Au commencement, les montagnes étonnèrent seulement Olénine. Ensuite, il éprouva du plaisir, mais regardant de plus en plus cette chaîne de montagnes de neige qui paraissait et disparaissait non pas derrière d'autres montagnes sombres, mais tout droit dans la steppe peu à peu, il commença à en pénétrer la beauté. Et il finit par sentir les montagnes. À partir de ce moment, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il sentait reçut pour lui un caractère nouveau, le caractère majestueux et sévère des montagnes. tous les souvenirs de Moscou, la honte et le regret, tous les rêves vulgaires sur le Caucase, tout se dispersa et ne reparut plus. Une sorte de voix solennelle semblait lui dire « Maintenant, c'est commencé ». Et la route, et la ligne du Terek, qu'on voyait de loin, et les Stanitsa, et la population, maintenant tout cela ne lui semblait plus une plaisanterie. Il regarde le ciel et se rappelle les montagnes. Il se regarde lui-même et Vanouchka, et de nouveau les montagnes. Ah, deux cosaques à cheval, leurs fusils engainés se balancent en cadence sur leur dos. Les chevaux mêlent leurs jambes baies et grises, et les montagnes. Derrière le Terek, on aperçoit la fumée de la houle, et les montagnes. Le soleil s'élève et brille sur le Terek, qu'on aperçoit à travers les roseaux, et les montagnes. Un chariot vient de la Stanitsa, des femmes marchent, de belles et jeunes femmes, et les montagnes. Les abreks courent dans la steppe, et je vais, je n'ai pas peur d'eux, j'ai un fusil, la jeunesse, et les montagnes. Voilà, j'aime beaucoup ce passage, parce que là on voit toute la poésie, et la littérature de Tolstoï qui naît dans tout cela, quoi. C'est magnifique. Et donc, je dois vous dire que les Stanitsa, Tolstoï, dans cette belle nouvelle que vous pourrez lire cet hiver, Les Cosaques, qui n'est pas très long, et Stanitsa, c'est le camp cosaque. Oui, il garde tous les mots cosaques du Caucase dans cette nouvelle. Stanitsa, c'est le camp cosaque. La houle, c'est le village fortifié où sont les insoumis. Et les abreks, ben, ce sont les insoumis, quoi. Voilà. Donc, Tolstoï arrive passe par le Daghestan et arrive dans le camp cosaque. Et on sait que tous ces Cosaques, ce sont les pionniers des conquêtes de la Russie au Caucase, mais en Sibérie. Ce sont eux qui vont jusque dans les frontières, qui vont conquérir, comme, je ne sais plus si je l'ai dit, mais les Cosaques, il faut que je parle de qui est les Cosaques, je ne sais plus si je l'ai dit. Si dans la première émission, ils sont l'élite de l'armée russe. C'était des Turco-Tatars, quelques siècles, et comme ils étaient indomptables, ils traversaient les plaines à fond, là, avec leurs chevaux, ils pillaient, ils étaient des intrépides, des guerriers de premier niveau, quoi. Et Catherine II, la grande Catherine, a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils pillent tout, il faut qu'on les insère, on leur donne des terres, on leur a donné une ville, Rostov-sur-le-Don. Et donc, ils ont été progressivement insérés dans l'armée russe, et on les envoie dans les confins de l'Empire russe. Donc, ils sont au Caucase. Donc, Tolstoï arrive, Staroglatkovskaya est un camp, un village, une garnison cosaque. Et donc, là, je voudrais quand même arrêter de parler et laisser la parole à la musique où il y a des très beaux chants de femmes cosaques qui illustrent quand même toute la vie d'un village cosaque. Voilà, donc il est arrivé dans ce village de Staroglakovskaya en Tchétchénie. Le Daghestan est tout proche, l'Ingouchie est là, derrière, l'Ossétie, la Kabardine-Balkarie, une région que j'ai traversée où sont les meilleurs chevaux du Caucase, la Tcherkessie, l'Abkhazie. Tout à côté, il y a l'Azerbaïdjan et la Géorgie, avec capitale Tbilissi et autrefois Tiflis. Au bout de quelques temps, Tolstoï est un peu déçu de cette vie rude de la garnison. Lui qui arrive des études, c'est un peu un dandy quand il arrive là. Et il trouve que la vie de militaire, c'est rugueux, quoi, hein, par rapport à son langage de dandy. Lui qui parle 5-7-6 langues déjà. Il parle toutes les comme je l'ai dit l'autre jour, l'arabe, le persan, le turc, l'allemand, l'anglais, le français, l'italien. Enfin bon, déjà à 20 à 23 ans. Et donc, son frère, pour le divertir un peu, l'emmène plus loin en Kabardine-Balkarie à Piatigorsk, une ville que j'ai visitée, Kislovodsk, qui sont des régions merveilleuses au pied du Caucase, et là où il y a les eaux, ils vont prendre les eaux, ils vont prendre des bains. Les Turcs étaient passés par là autrefois, l'Empire ottoman. Et donc là, Tolstoï est content, et c'est à Piatigorsk qu'il va commencer justement à écrire, parce que sa fameuse et protégée tante, enfin sa tante qu'il protège, Tatiana Alexandrovna Ergolskaya, qui est restée dans son domaine pour suivre les événements, parce qu'il faut bien quelqu'un qui gère quand même les intendants. Lui, il est parti se promener là-bas comme militaire. Enfin, il n'est pas encore militaire, il est civil pour l'instant. Donc elle lui avait dit, mais écris donc, ça va quand même faire un peu un remède à ta vie de débauche, tu as plein de qualités d'écrivain, il faudrait que tu écrives, mon cher Lev. Et il a commencé donc dans ce Caucase à écrire enfance, dont je faisais allusion la dernière fois. Enfance, jeunesse, matinée d'un seigneur, l'incursion. Et très vite, il a été reconnu, très vite, à 23 ans. Il a envoyé ses écrits à Saint-Pétersbourg, dans les milieux intellectuels, littéraires. Et il a été reconnu très vite comme quelqu'un qui avait vraiment du talent, quoi. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, mais il chasse beaucoup. Le Caucase, c'est évidemment une région de chasse, il aime chasser. Et puis, cette guerre que font les Russes là-bas à cette époque-là, c'est une guerre de conquête, mais ils vont chasser les Abreks, les Tchétchènes, les Ingouches, les gens du Daghestan pour les conquérir, pour passer le Caucase et aller plus loin. Donc c'est presque une partie de chasse, quoi, pour eux, d'aller chasser les et voilà. Donc c'est pas la guerre qui va y avoir à Sébastopol, parce que là ça sera la vraie guerre, quoi. Donc c'est une guerre, mais une guérilla, voilà. Tolstoï s'y prend, et puis il va avec son frère. Alors c'est un rude cavalier. Et donc, il décide, au bout de quelques 7-8 mois, de s'engager. Et pour s'engager, bah, il fallait faire ses papiers. Et faire ses papiers, ça se trouve à Tiflis, en Géorgie, l'actuel Tbilissi. Et donc, là, si vous regardez sur la carte, il y a des kilomètres. Il faut traverser le Caucase et donc aller jusqu'à Tiflis et en Géorgie. Et là, il revient, il reste 2 mois, 2 ou 3 mois. La Géorgie avait demandé la protection, comme c'est chrétien, la Géorgie avait demandé la protection de la Russie en 1801. Et donc, Tolstoï retrouve toute une espèce d'aristocratie. Tbilissi est une ville très riche, beaucoup de soleil, évidemment. Hein. Et donc, il revient avec un grade. Il est sous-lieutenant quand il revient de Tbilissi. Et donc là, bah, il reprend de plus en plus contact avec la vie militaire quand même. Hein. Mais il continue à écrire. Et si vous lisez Les Cosaques, vous verrez le fameux l'oncle Yeroshka, l'homme des bois, l'homme de la nature, qui vit selon ses désirs. Et ça plaît beaucoup à Tolstoï, de vivre en homme libre. Et évidemment, Tolstoï, il a aimé une jeune cosaque, parce que, vous savez, les Russes, quand ils arrivaient dans un village cosaque, alors que les cosaques étaient des Russes, ils étaient convertis tous à la religion orthodoxe, ils étaient des vieux croyants, on parlera plus tard de ce que c'est que des vieux croyants. Mais donc, malgré qu'ils étaient Russes et orthodoxes, ils étaient des, excusez-moi l'expression, à cette époque-là, pour les Russes, c'était des sous-Russes presque. Donc, ils rentraient chez eux, Il louait évidemment une chambre, un appartement à des prix dérisoires. Et il y avait une fameuse Mariana que Tolstoï aimait beaucoup, quoi. Et il rêvait de se marier avec cette jeune femme. Mais il s'est bien rendu compte que la distance... Mais dans les Cosaques, vous lirez, tout est expliqué mieux que je le dis. Il s'est bien rendu compte que la distance était énorme, quoi. Mais ce qui a plu beaucoup, beaucoup à Tolstoï dans... le Caucase, c'est le contact avec la nature. Là, ça a été vraiment son éveil, j'allais dire spirituel, non, mais presque, son éveil littéraire, sa sensibilité à la nature qui a été vraiment mis en éveil. Et il écrira à la fin de sa vie le fameux roman Hadji Mourat qui relate la vie au Caucase aussi. Donc, deux célèbres romans que Tolstoï a écrits, Les Cosaques et Hadji Mourat. Mais on ne va pas faire le détail d'Hadji Mourat parce que là, on y est jusqu'à minuit. Mais c'est d'une merveille. Donc, les Cosaques ont énormément influencé Tolstoï et je voudrais quand même vous faire entendre un merveilleux chant cosaque que j'ai à vous faire partager, quoi.
Где бы ни был казак, в дальнем боевом походе, али в окопе, ожидая вражеской атаки, он всегда думал о своем доме, о любимой, али о жене.
Когда мы были на войне,
когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой, али о жене.
Voilà, même si Tolstoï envie le bonheur de ses peuples, il se rend compte qu'il est incapable de chanter comme eux, de voler, d'aimer, de tuer, sans se poser de questions. Quand cesserai-je enfin de couler des jours tristes et sans passion, et de sentir dans mon cœur la blessure profonde, sans jamais savoir comment la guérir? D'où vient cette blessure? Dieu seul le sait. Mais depuis ma naissance me tourmente cette preuve du néant futur, la tristesse accablante et le doute.
Et là, Léon Tolstoï en a un peu marre, il s'en va, il quitte le Caucase et il s'en va en Crimée, à Bucarest. Et là, il va démarrer une grande guerre, c'est ça?
Voilà, donc il quitte le Caucase, déçu, il ne se marie pas avec Mariana, bien sûr. Le nom de Mariana, c'est le nom du roman. Mais c'est vrai, parce que, bien sûr, tout son journal intime l'indique. Donc il va partir assez rapidement, en mai 1853, peut-être un peu déçu par un amour impossible, mais ils se rendent bien compte, Mariana lui a dit « tu n'es pas fait pour moi et je ne suis pas fait pour toi ». Bien, donc il va s'engager dans la guerre de Crimée, il fait une petite visite chez lui, il revient à Yasnaya Polyana bien évidemment avant, et la guerre de Crimée, comme vous le savez, vient d'éclater, guerre de Crimée 1853-1856. Et donc Tolstoï, c'est pas la porte à côté du Caucase, aller jusqu'à Bucarest. Il s'en va sur près de Bucarest, près du front du Danube, on appelle ça, en Silistrie. Et donc, il arrive là-bas et il prend part. Alors là, ça, c'est plus du tout la chasse aux abrecs, la chasse aux lapins, aux cerfs, aux perdrix du Caucase, là. Ça change de registre. Mais Tolstoï veut ça. Il avait un peu marre, il veut. C'est quelqu'un qui... Il est engagé. Alors là, maintenant, il est engagé. Il aurait bien voulu démissionner après le Caucase, mais il est engagé. Il ne peut plus sortir comme ça. Donc, alors, on y va, comme il n'a pas de projet. Mais il continue à écrire. Il sent que ses écrits sont reconnus, donc ça l'encourage en même temps. Et là, quand il reste quelque temps en Silistrie, le front du Danube, mais là, le front du Danube, bon, c'est tranquille, parce qu'il est déjà, il va passer officier, sous-lieutenant, quand il arrive là-bas. Alors, ses hommes creusent des tranchées, il va voir la guerre, et, mais bon, ça l'emballe pas plus que ça, quoi, Bucarest, quoi. C'est un peu trop calme pour lui. Hein. Puis, il retrouve plus toute cette dynamique, cette passion du Caucase. Il dit, tant qu'à faire, je veux aller carrément au front, quoi. On va aller voir ce qui se passe, on va aller voir la guerre, quoi. Et donc, il s'engage, il demande d'aller carrément à Sébastopol. Alors là, Sébastopol, c'est plus de la guérilla là. Ça rigole plus du tout. Comme vous le savez, l'armée russe et l'Empire ottoman, les Turcs sont en guerre. Alors qui a commencé? Chacun dit que c'est eux qui ont commencé le premier. Évidemment, les Russes veulent toujours plus. Mais si le Caucase était une guerre de conquête assez facile pour conquérir les pauvres montagnards là, même s'ils se défendent, parce que ils se défendent deux siècles encore, hein. Comme on le sait en Tchétchénie. Mais le Sébastopol, là, ça change d'allure. Parce que non seulement l'Empire ottoman est quand même s'il est faible, organisé, mais là, il y a la France et l'Angleterre qui rentrent en guerre. Et pas, ils viennent en Crimée avec tous leurs bataillons et là, ils mettent le paquet pour arrêter cette Russie trop... cet empire russe trop conquérante, quoi. Hein. Les Anglais ont des avantages là-dessus parce qu'ils ne veulent pas que la Russie traverse trop le Caucase et s'en aille aux Indes. Bref. Et l'Empire ottoman, les Français veulent le protéger. Bref. Mais eux, voilà. Donc, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Et donc, là, il arrive. Il arrive au bastion... de Sébastopol. Sébastopol, il y a un siège qui va durer, je sais pas combien de temps, je m'en souviens plus exactement, mais une année. Et là, Tolstoï, il est carrément au front. Il est lieutenant, sous-lieutenant, pardon, et il a cinq, six batteries à son service. Et déjà, il se dit, là, il commence à avoir conscience du danger. Et voilà ce qu'il dit dans son journal. La conscience, Seigneur, parce que, bon, il faut savoir que même si Tolstoï n'est pas pratiquant, vraiment pratiquant, mais on est quand même dans une Russie complètement gérée, dominée par la religion orthodoxe. Tout le monde est croyant, et plus ou moins pratiquant, mais croyant. Tolstoï, il est à sa façon, mais pas pratiquant. Il dit quand même, Seigneur, je te remercie de la protection que tu m'accordes sans cesse. Oui, parce qu'il ne s'est jamais fait tuer, évidemment. Avec quelle sollicitude me conduis-tu au bien? Et quelle créature misérable je serais si tu m'abandonnais? Seigneur, ne m'abandonne pas, garde-moi, et non pour satisfaire mes désirs misérables, mais pour atteindre le but éternel et glorieux que l'existence inconnue encore, mais déjà conscient en moi. Voilà, donc il avait conscience en lui déjà, depuis tout petit, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, qu'il avait une mission, quoi. Enfin bon, il avait quelque chose à faire, et ça va évoluer cas à cas vers... ce grand Tolstoï qu'on verra dans les émissions futures, quoi. Donc il a pris part carrément à des batailles, mais il a été mis à la 4e bastion, qui était Sébastopol, le bastion le plus fort, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Mais il continue à écrire quand même dans ce bastion-là. Il continue. Alors, bon, on ne va pas tout résumer, ça serait trop long. Tantôt, il se dit, mais je vais mourir, là, ce n'est pas possible. Là. Je suis dans le bastion le plus dangereux et il voit des morts autour de lui qui tombent. Parce que ça rigole plus. Les Anglais, les Français, là, ils sont équipés déjà là. Ils tirent avec des canons, des explosifs, déjà tout ça. Et il dit, alors que moi, je sens que j'ai une grande œuvre à faire, je veux pas être de la chair à canon. Et oui, mais une nuit, sur tout le front russe, il y a eu 2500 morts. 2500 morts une nuit. Et comme on voit que Tolstoï est un très bon écrivain déjà, on lui demande de rédiger un rapport sur cette nuit. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de morts? Et il a dû enquêter auprès de tous les responsables de batterie. Des batteries, quoi. Donc, c'est là qu'il dit, c'est très marrant qu'il ait toujours ce sentiment, lui, qu'il a quelque chose de grand à faire. Et il dira même une fois... il dira une fois dans son journal, et ça marque tous les gens qui s'intéressent à Tolstoï, ils peuvent pas ne pas le dire, ça. Il dira une fois, alors qu'il parlait, il y a beaucoup de discussions spirituelles, philosophiques, politiques, parce que même étant au front, Tolstoï il lit Stendhal, il joue, il chasse encore un peu, parce que la Crimée, il y a des montagnes, c'est déjà plus propice que Bucarest, il aime beaucoup chasser. Et il dira, la conversation sur la divinité et la foi m'a amené à une grande idée pour la réalisation de laquelle je me sens capable de consacrer toute ma vie. Cette idée, rien que ça, c'est la fondation d'une nouvelle religion, correspondant au niveau du développement de l'humanité, la religion du Christ, mais purifiée du dogme et des mystères, une religion pratique, ne promettant pas la béatitude de la vie future, mais donnant le bonheur sur la terre. Donc Tolstoï avait déjà cette idée qu'il avait quelque chose à...
Un nouveau messie né.
Mais un nouveau, oui, comme tu dis, un nouveau messie né. Plus tard, on verra que certains ont cru que c'était un nouveau messie. Hein. Mais bon, on développera ça plus tard. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant ce siège de Sébastopol, là où on arrive dans le troisième grand récit de Tolstoï dans cette guerre de cette vie militaire de 5 ans, il va écrire les récits de Sébastopol. Donc, c'est quoi les récits de Sébastopol? Eh bien, il se met, comme il a fait des rapports de guerre, on lui a demandé de voir ce qui se passe sur le front, pourquoi il perd tant d'hommes, pourquoi l'armée russe n'est pas organisée. Et lui, fallait pas le dire, ça, que l'armée russe était mal organisée, qu'ils avaient des bottes toutes cassées, puis pas de vêtements. Et là, lui, il va décrire tout ça.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, oui. Il va décrire tout ça. Et ça a été censuré, bien évidemment, au départ. Mais il le décrit avec une précision. Tolstoï, comme on le voit déjà, il a un œil de lynx. Il décrit les choses. Il nous entraîne à l'intérieur de ce qu'il décrit, quoi. Alors, mais, bon, on va résumer quand même. Mais les récits de Sébastopol, si vous les lisez, vous aurez une vision, une vue de la vie de cette époque-là merveilleuse. Et ça va être quand même, cas un cas, ça va être reconnu et accepté par le tsar. Parce que c'est maintenant Alexandre II, qui est là. Et jamais, jamais, on avait vu une telle description de la guerre, avec autant de précision. Et Tolstoï ne décrit pas d'une façon générale, mais décrit le pauvre soldat qui est en train de mourir. Il décrit la vie humaine qui est là en train de mourir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a touché toute la Russie, tous les milieux littéraires. Donc là, ben, il est déjà promu à une assez grande carrière littéraire. Quand on accueille tous ses écrits, enfance, adolescence, Mathilde d'un seigneur, les Cosaques un peu plus tard, mais les récits de Sébastopol, une coupe en forêt, enfin tout ça, c'est des germes de guerre épais, quoi. Et le tsar, voyant ce jeune écrivain génial, militaire, très téméraire, parce qu'il a peur de rien, Tolstoï, il est au front à fond, quoi. Hein. Mais il demande quand même à vouloir être retiré, quand même. Il se dit, mais là, je vais y passer, ça continue comme ça. Hein. Ça, ça meurt, ça tombe autour de moi. Et donc, le tsar demande en personne, on voit par intermédiaire que ce jeune Tolstoï soit retiré du front afin qu'il soit préservé. Voilà, donc Tolstoï va être préservé, il va être retiré du front. Et ce que je voulais dire quand même, c'est que moi, ce qui m'étonne toujours, évidemment, comme je suis paysan, vécu dans la campagne très simple de cette Vendée où il n'y avait rien, mais lui, il est en Crimée, en pleine guerre, il lit Stendhal, et puis il joue du piano, tranquillement, quoi. Enfin, tranquillement. Et là, j'ai choisi, comme Tolstoï aime beaucoup Chopin, c'est un fanat de Chopin, et qu'il aimait beaucoup les valses. Je ne sais pas s'il a joué la valse brillante de Chopin, mais en tout cas, Martha Argerich va vous la jouer merveilleusement bien. Voilà, avec cette merveilleuse valse brillante, voilà, c'est vrai qu'en pleine guerre, Tolstoï joue du piano, c'est assez impressionnant, il trouve des pianos, il trouve des gens pour danser, puis écrire, évidemment.
Tu disais, donc là, il s'en va, le tsar demande à ce qu'on aille récupérer ce jeune avant qu'il se fasse trucider, et ça fait combien d'années qu'il est militaire, là ?
5 ans.
5 ans.
Il y a 5 ans, 3 ans... au Caucase, 2 ans, Sébastopol. Donc, il le fait retirer, mais Sébastopol va tomber aussi en 56, hein, 1856. Alors, je ne sais pas si... je crois qu'il l'a fait retirer avant que Sébastopol tombe. Et Alexandre II le fait venir à Saint-Pétersbourg, où il va lui donner une petite fonction, mais bon, Tolstoï demande sa retraite. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tolstoï demande sa retraite, il est dégoûté, il en a marre, il veut passer à la littérature. Il a fait tous ses bons essais, là, et puis il sent que Tourguenieff, le russe comme lui, qui a 8 ans de plus, 10 ans de plus que lui, ou 8 ans, je ne sais plus, 10 ans, je crois, qui habite Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est là où se trouve toute l'intelligentsia à cette époque-là, 1856. Tous les écrivains, et c'est là que tous ces écrits sont arrivés. Et Tourguenieff a été enchanté de recevoir tous ces écrits. Donc, il arrive à Saint-Pétersbourg, il quitte l'armée, là, sa retraite lui est attribuée. À 28 ans, il a sa retraite.
28 ans.
28 ans. Et là, il va arriver dans la grande ville après 5 ans de guerre, de vie, qui va marquer Tolstoï. Ces 5 ans au Caucase, j'insiste pour dire, si vous lisez ces 3 grands romans, enfin, ils ne sont pas grands en dimension, mais ils sont fondateurs pour les œuvres de Tolstoï. Sans le Caucase et Sébastopol, beaucoup d'analystes disent que Tolstoï n'aurait pas été l'écrivain, parce qu'il a pris contact avec la réalité profonde de la vie, la mort, la vie. Lui qui est un passionné de la vie, de la mort et de l'amour. Donc, on voit que Tolstoï est déjà reconnu écrivain en toute la Russie. Le tsar le reconnaît comme premier grand reporter de guerre de Sébastopol. La femme du tsar en pleure de joie quand elle voit les récits de Tolstoï. Donc, c'est ça qui est fort chez Tolstoï. C'est tantôt il est censuré, tantôt il est prêt à être mis en prison, mais tantôt il est adulé. On ne sait pas comment le prend cet animal, quoi. Donc, c'est un personnage fascinant. Donc, voilà, comme je viens de le dire, eh ben, ces 5 années sont fondatrices. Et moi, je trouve que Tolstoï place le lecteur en contact direct avec la réalité. Il nous dévoile le dessous des choses et il nous oblige à regarder la réalité en face, telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, que ce soit la guerre, l'amour ou la haine ou la jalousie ou la bonté. Il va au fond des choses, il les dévoile, il les révèle. Voilà. Donc, moi je trouve que, voilà, ce qui est très beau, c'est qu'on peut dire que Tolstoï a commencé ses écrits avec enfance, en racontant sa douce et tendre enfance, et au Caucase, il est passé à la guerre après. Voilà, donc je vais vous... L'heure arrive, il faut que j'arrête, et je veux quand même vous citer une petite phrase de Tolstoï, qui n'est pas longue, mais que j'aime beaucoup, et qui est très significative chez lui. Comme vous savez, ses œuvres sont autobiographiques, mais il dit « Le héros de mes récits, celui que j'aime de toutes les forces de mon âme, celui que j'ai tenté de décrire dans toute sa beauté et qui a toujours été, est et sera beau, c'est la vérité. »
Très bien.
Voilà, donc, il faut pas... tu veux citer les livres? Je cite les livres, là.
Vas-y, oui, cite.
Voilà, je vais vous citer les livres qui ont servi à préparer... qui m'ont servi à préparer cette émission, et que je vous encourage à lire si vous le souhaitez. Donc, il y a évidemment Les Cosaques, Le Prisonnier du Caucase. Le Prisonnier du Caucase, que ce soit Pouchkine, Lermontov, Tolstoï, ils ont tous écrit Leur Prisonnier du Caucase. C'est de toutes petites nouvelles. Et Hadji Mourad, qu'il écrira à la fin de sa vie. Ça, c'est un roman merveilleux, mais il faudrait une émission pour parler de Hadji Mourad. Et je n'oublie pas, bien évidemment, Les Récits de Sébastopol. Voilà.
Donc là, Tolstoï quitte l'armée, il s'en va chez lui.
Alors voilà, Tolstoï quitte l'armée, il passe chez lui à Yasnaya Polyana, bien évidemment. Mais il va rester quelque temps à Saint-Pétersbourg, dans les milieux littéraires, avec l'intelligentsia de Saint-Pétersbourg, avec son ami Tourguenieff. Tourguenieff va devenir son ami et il va habiter chez lui parce qu'il arrive du Caucase, là, complètement 5 ans de vie. Il dit qu'il ne sait plus vivre, il dit qu'il ne sait plus s'adapter en société, mais il garde son habit militaire. Il est plus militaire, mais il garde sa tenue militaire, son sabre. Il est encore très dans l'ambiance, quoi, hein. Et Tourguenieff, qui est tout... Si vous lisez Tourguenieff, Matinée d'un chasseur, il est tout tranquille, qui vivra à Paris, Tourguenieff, longtemps. Tolstoï va rester quelques mois à Saint-Pétersbourg. Et là, il va repartir de Saint-Pétersbourg pour tous ses grands voyages en Europe. Dans la prochaine émission, nous allons parler des voyages que Tolstoï va faire en Europe et de son travail d'éducateur, de libérateur de ces mogiques, il va reprendre cela, qui était la base de sa préoccupation quand il a quitté l'université.
Merci Claude, et donc la prochaine fois on part, c'est pour les grands voyages de Léon Tolstoï à travers l'Europe. Et bien écoute, on verra ça, on attend avec impatience la suite de la vie trépidante de Léon Tolstoï. Merci à toi Claude Ferré, et à bientôt chers auditeurs.
Merci.